Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Comme si on n'en avait pas assez avec la pandémie ou les attentats terroristes en France, une série de très, très mauvaises nouvelles dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin. Toute une série de piratages informatiques qui touchent des institutions aussi différentes que la Société de transport de Montréal ou encore un CIUS. On va en parler avec Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête, directeur du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Sophie.
C'est toujours inquiétant quand on voit le mot « pirate » apparaître, mais là, quand c'est à la une des journaux, les pirates attaquent, vraiment, ça donne froid dans le dos. Jean-Louis, c'est vraiment d'une ampleur absolument énorme, tous ces cas de piratage. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces cas-là de piratage?
Bien, ceux qu'on rapporte ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est certainement le fait qu'ils s'attaquent d'abord à des institutions publiques, hein, la STM à Montréal, donc le métro, les autobus, un CIUS, le réseau de la santé, même la réserve urbaine de Wendake, près de Québec.
Ouais.
Et aussi, bah, c'est des rançons logicielles, mais tantôt, tu disais, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cas. Mais hier matin, quand j'étais en réunion avec les membres du bureau d'enquête, un après l'autre, tout le monde avait des informations. Alors moi, j'ai entendu dire, j'ai eu des nouvelles informations sur ce qui se passe à la STM. Moi, j'ai entendu dire qu'un hôpital qui s'est fait pirater. Moi, j'ai entendu dire que la réserve Wendake. Alors, et là, hier, on disait, ben, écoute, on va falloir faire une édition spéciale avec toutes ces attaques. Mais c'est-à-dire à quel point c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est vraiment que le réseau de la santé soit attaqué de la sorte.
Voilà. Alors, parlons-en. Parlons du CIUS, oui, justement, parce que dans ce cas-là, donc, écoute, c'est un réseau qui a vraiment été piraté et il y a des conséquences. Bon, évidemment, on est en pleine période de pandémie. Quand tu as un réseau qui doit être suspendu pendant 3 jours, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, Jean-Louis?
C'est surtout des conséquences au niveau de l'organisation des soins, non pas des soins eux-mêmes. Donc, quand
on
les pirates, on appelle ça donc un rançon logiciel, c'est-à-dire que les pirates tentent de crypter l'information du CIUS, donc tous les dossiers patients, etc. Dans le cas du CIUS du centre-ouest de Montréal qui a été attaqué, il semble qu'il n'ait pas réussi à encrypter l'information. C'est-à-dire que quelqu'un, ça c'est une bonne nouvelle, là, qui a été assez vigilant pour fermer le robinet. Dès que l'intrusion a été détectée, tous les accès à Internet ont été coupés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il semble qu'il n'y ait pas d'information personnelle des patients qui a été envoyée à l'extérieur. Par contre, pendant au moins 72 heures, ça c'est un minimum, là, le temps qu'on trouve la brèche par laquelle les pirates sont rentrés, il n'y a plus personne, il y a 12 000 employés, il n'y a plus personne qui peut faire de sauvegarde sur un des serveurs. Hier, le grand patron du CIUS nous disait en point de presse, c'est comme si on était comme un peu sur une île déserte, là, coupée du monde. Donc, on revient aux bonnes vieilles méthodes d'il y a 15-20 ans. Là, on imprime sur du papier, on sauve sur des clés USB. Chaque fois qu'on doit créer un fichier qui est lié avec les soins des patients. Donc, c'est sûr que c'est pas une attaque informatique qui va empêcher de changer les pansements d'une patiente hospitalisée. C'est pas une attaque informatique qui va empêcher un malade d'avoir ses médicaments. Mais par contre, tout ce qui est au niveau de la prise de rendez-vous, de la communication, inscrire un renseignement dans un dossier.
Voilà.
Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se perdre. Hier, c'est impossible, par exemple, pour une clinique associée au CIUS de communiquer avec l'horaire pour que quelqu'un prenne un rendez-vous. Alors, il y aura des impacts. Il ne faut pas se le cacher. On tente de rassurer la population. Je pense pas qu'on peut dire que la vie des gens est en danger à l'heure actuelle à cause de cette attaque-là. Mais ça va chambouler nécessairement dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'organisation des soins au CIUS Centre-Ouest, qui n'est pas un petit CIUS, hein, c'est 350 000 personnes qui sont desservies, c'est tout ce qui est là, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, Outremont, l'ouest du centre-ville, donc c'est une population
assez majeure
à Montréal qui est affectée, oui.
Jean-Louis, je lisais ça, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes dans le journal de ce matin, et il y a un élément qui, moi, m'apparaît absolument terrorisant et terrifiant, c'est que il y a beaucoup de gens à qui vous avez parlé, qui ont des entreprises, des organisations qui ont été victimes de vols de données, mais qui ne l'ont pas déclaré. Donc, on a l'impression que ce dont vous nous parlez ce matin dans le journal, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ça qui est terrifiant, parce que déjà, quand on regarde ce qui se passe, ça fait peur. Mais là, on se dit, ben, c'est vraiment juste une partie de ce qui se passe, puis qu'il y a beaucoup de gens qui ne le rapportent pas aux autorités.
Ben, c'est sûr, parce que c'est un peu honteux, hein. Si on regarde les données du Centre antifraude du Canada, c'est facile de dire que le nombre d'actes de piratage a augmenté, là, en 4 ans. La valeur des sommes déclarées qui ont été perdues est passée de 28 000 à 234 000. Mais c'est évident que quand ton organisation est victime d'une brèche informatique, c'est pas une belle nouvelle à publiciser. Hein.
C'est comme si tu t'es fait pogner les culottes baissées, en fait.
Exactement. Donc, selon le Centre antifraude, il y a seulement 10% des incidents qui sont rapportés à la police. Moi, je pense que c'est un chiffre qui est assez optimiste, 10%. Mais c'est vraiment là. La plupart du temps, quand ce sont des entreprises privées, elles ne déclarent pas. Par contre, je dois te le dire, Sophie, que dans le cas des organisations publiques, il y a une plus grande sensibilité maintenant à être proactif et honnête. Puis, je tiens à le souligner, là, la Société de transport de Montréal, par exemple,
oui,
depuis 2 semaines, là, est victime d'un rançon logiciel qui a crypté à peu près 1000 de ses serveurs. Ils se sont pas cachés.
D'accord. Mais c'est tout à leur honneur. Ouais.
Puis on a 3 journalistes qui les bombardent de questions sur leur travail. Ils font très bien ça là, depuis 2 semaines. Mais la STM, hier, nous a organisé une réunion avec le directeur général, avec le directeur des pays, pour répondre aux questions. Je pense que la transparence dans ceci, c'est une bonne chose. D'abord parce que ça montre qu'ils prennent le problème au sérieux, qu'ils ne balaient pas en dessous du tapis. Et aussi, si on peut aider d'autres organisations publiques à prévenir ce genre d'attaque-là.
Parce exactement.
Il n'y a personne encore. Quand les données sont cryptées, il n'y a pas de recette. Hein. La seule façon de s'en sortir, si tu n'avais pas une sauvegarde entière de tes données, là, c'est de payer la rançon. Puis on peut penser qu'il y a seulement que c'est très rare que les rançons soient payées, mais c'est faux. Aux États-Unis, le Washington Post hier rapportait que, parce qu'il y a plusieurs hôpitaux aussi qui ont été attaqués, là, pas juste au Québec, là, il y a des rançons jusqu'à 1 million de dollars qui ont été demandées et il y a des hôpitaux qui ont payé. Alors, c'est de l'argent qui devrait aller dans les soins aux malades et qui est payé en crypto-monnaie à des pirates dont on n'a aucune idée. Est-ce que ce sont des pirates russes, américains, européens? On n'en a aucune idée, mais on paye des fortunes à des pirates parce qu'on n'a aucun moyen de s'en sortir.
Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment.
Plus les organisations publiques sont transparentes, je pense qu'au niveau de la prévention, c'est déjà un pas qui est fait, puis les gens vont investir sur des curieux.
Oui, donc à ta connaissance et à la connaissance du bureau d'enquête, est-ce qu'il y a des cas au Québec où des entreprises, des organismes, des organisations ont pas eu le choix et ont payé des rançons ou jusqu'ici ça ne s'est pas produit?
Oui, il y a des organisations qui ont payé des rançons. Il y avait des municipalités, je pense, il y a quelques mois. Puis là, je veux pas. Je pense qu'il y a 1 ou 2 municipalités qui ont dû payer des rançons. Je pense entre autres que Châteauguay avait été attaqué, est-ce que c'est l'une de celles qui a payé, mais il y en a certainement là, qui ont payé. Puis des fois tu dis c'est au simple niveau comptable. Si tu payes quelques dizaines de milliers de dollars une rançon versus les impacts que ça peut avoir de rebâtir ton système informatique au complet, de priver l'accès aux services aux citoyens. Donc, des fois, on peut dire que ça vaut le coup. Mais évidemment, quand tu as envoyé de l'argent à des criminels, à des bandits,
t'es pas fier de toi.
Donc,
non, c'est jamais idéal.
Oui, il y a des gens ici qui payent des rançons, effectivement. Oui.
Mais ce qui est assez surprenant, j'avoue, Jean-Louis, dans le cas de la Société de transport de Montréal, c'est que ça s'est fait de façon tout à fait anodine. C'est un employé de la Société de transport de Montréal qui avait ouvert un courriel qui lui avait été envoyé par son concessionnaire automobile, ne sachant pas évidemment que son concessionnaire avait été lui-même hameçonné par un rançongiciel, là, c'est difficile à prononcer, mais je vais y arriver. Donc, parfois, ne serait-ce qu'un petit minime manque de vigilance peut avoir des conséquences absolument énormes pour l'organisation au complet. C'est ça qui est terrifiant.
Ben oui, pas des brumes sont tombées quand Nicolas Lachance, qui est notre
ami,
qui travaille là-dessus, m'a dit « Tout a commencé chez Acura Laval. » Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, c'est pas la STM qui était dans le viseur des pirates, mais ça a été comme un effet collatéral. Et,
ouais.
Et la STM nous dit que cet employé-là n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire qu'il a, bon, il a effectivement, à partir d'un poste de travail, la STM consulter des courriels personnels, mais il semble que la STM n'interdit pas formellement ce genre de pratique. Et en cliquant tout simplement sur un lien, la porte était ouverte, le réseau de la STM était infecté. Et là, ben, c'est un peu comme si les pirates, finalement, on est rendu à quelque part d'intéressant, hein?
Oui.
Transporteur public, le plus gros transporteur public au Québec. C'est 12, 13 000 employés. C'est un budget de plus d'un milliard par année. Ben, il y a peut-être un rançon à demander. Alors, ça a pris presque deux semaines, finalement, avec les pirates, finissent par demander la rançon, qui est quand même une rançon importante, là, 2,8 millions de dollars américains. Et ce que la STM nous dit, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de payer. Puis hier, Kip Tremblay, qui est le directeur général, disait « on négocie pas avec des criminels, c'est une question de principe ». Alors tu vois, c'est une autre philosophie. Dans le cas de la STM, on dit « c'est pas question qu'on paye de rançon ». D'autres organisations, dont au Québec et aux États-Unis, l'ont fait. Alors oui, ça me revient, tu disais, est-ce qu'il y a des organisations qui ont payé une rançon? Dans le cas de l'organisme Dans la rue, qui est une organisation, là, on ne peut plus…
Ben oui, pour les sans-abri, oui.
Qui ne s'adhéra pas aux sans-abri. Et eux avaient été obligés de payer une rançon. Alors, évidemment, c'est pas de l'argent qui doit aller à ces criminels-là. Donc, pour revenir à la STM, on n'a pas encore une idée de quand la situation va revenir à la normale. Ou du côté des systèmes informatiques, on nous dit qu'on travaille d'arrache-pied. Alors, on s'attend à ce que dans les prochains jours, prochaines semaines, on y soit parvenu, mais tu peux imaginer, Sophie, là, quand pendant deux, trois semaines, un mois, une organisation comme ça est paralysée, ses systèmes informatiques ne fonctionnent pas, tout ce que ça peut coûter comme
Absolument.
Temps, comme argent. Alors, clairement, là, ça peut avoir des conséquences désastreuses.
Oui, je pense que c'est des personnes qui étaient interviewées dans le reportage qui disent c'est beaucoup de jus de bras, là. Tu sais, c'est beaucoup d'énergie qui est utilisée et qui est focussée sur ce problème-là. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de régler d'autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'organisation ou dans l'entreprise. Jean-Louis, je sais que tu vas devoir partir bientôt, donc je vais faire ça rapidement. Une dernière question. Toi qui as supervisé tout ce dossier-là, avec les collègues, avec quel sentiment tu ressors de tout ça? Est-ce que tu penses que ce sont des cas isolés ou est-ce qu'il y a vraiment une vulnérabilité au Québec dans nos entreprises, nos organisations publiques, une vulnérabilité face aux pirates informatiques?
Ben moi, je pense qu'il y a une grande, grande vulnérabilité. Mais je te comparerais ça au coronavirus. On n'est pas meilleur, on n'est pas pire qu'ailleurs. On est aussi vulnérable qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Je pense que nos entreprises, autant privées que publiques, commencent à peine à se rendre compte de cette menace-là. Il y en a qui se protègent bien, mais d'après moi, la grande majorité ne le font pas assez. Mais je peux pas te dire qu'on est plus vulnérable ou qu'on est plus épais qu'ailleurs, qu'on se protège moins qu'ailleurs, c'est pas vrai. Des attaques comme ça, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a partout. Alors malheureusement, c'est à la police, c'est aux forces de l'ordre maintenant à occuper ce terrain-là. Hein? On court après les meurtriers, on court après les
gens
qui brûlent les stops et qui font de la vitesse sur les routes. Il faut maintenant penser, là, dans les prochaines années, comment on court après les criminels, les bandits, qui encryptent les données personnelles et qui demandent des rançons aux organismes publics. Alors ça, c'est tout un défi pour la GRC, pour la Sûreté du Québec dans les prochaines années.
Puis une autre question collatérale à ça, c'est est-ce que justement en ce moment, que ce soit à la GRC ou à la SQ, est-ce qu'on a des employés qui ont toutes les connaissances suffisantes des techniciens en informatique, pour pouvoir faire face à ça, tu sais, parce que faut mener des enquêtes, faut arriver à retracer tout ça. Tu sais, je regarde les textes là, c'est le Trickbot, puis ensuite c'est le logiciel Ryuk, puis en tout cas pour moi c'est du chinois, mais est-ce que les gens à la GRC est-ce qu'ils ont des unités assez formées pour pouvoir vraiment faire ces enquêtes là? Je pense que c'est une question collatérale aussi, là?
La réponse est non. mais
OK, c'est rassurant.
Il y a des efforts quand même. Oh, oui, non, la réponse est non. Il n'y a pas assez de ressources. Mais il y a des efforts qui sont faits pour en déployer, pour s'équiper un peu mieux pour lutter contre ce crime-là dans les prochaines années. On verra si ça fonctionne. Mais malheureusement, je suis obligé de te dire que dans le cas des crimes technologiques, tout comme les crimes de col blanc d'ailleurs, la police est souvent 5 ans en arrière des criminels. Alors, c'est pas rassurant, là, mais c'est difficile à attraper ces bandits-là. Au moins, on sent qu'il y a des efforts. On sent que les corps policiers veulent investir pour s'attaquer à ça dans les prochaines années.
Bon, en tout cas, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. C'est vraiment un dossier fouillé, plusieurs pages plus terrifiantes les unes que les autres, parce qu'on parle quand même de dizaines, de centaines, de milliers de dollars demandés en rançon dans ces cas-là. Donc, les pirates attaquent vraiment, là, ça donne froid dans le dos. Merci, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête.